Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Moi, je veux le pouvoir maintenant, quoi. En tant que femme, et puis aussi en tant que personne qui n'est pas née dans les bons quartiers.
Nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes un cœur, une sensibilité, une intelligence, une histoire.
Non, le patriarcat, il n'est pas encore à terre. Il n'est pas encore à terre. On le mettra à terre et vous nous direz merci.
Speech Society. Je suis Marielle Iberclair, experte en prise de parole en public et coach TEDx. Avec Speech Society, j'ai voulu accompagner les femmes à porter leur voix plus haut, plus fort. Avec des tips tous les lundis dans un épisode flash pour développer votre assertivité et votre éloquence. Et une fois par mois, avec une conversation sans filtre avec des femmes connues ou à connaître dont j'estime le parcours et les valeurs. Des femmes qui empuissancent les femmes, des femmes qui prennent la parole et qui tendent la main à leurs sœurs pour qu'elles s'expriment elles aussi. Pour plus d'égalité, plus de confiance et plus de prise de conscience. Speech Society. Bienvenue Florence Servan-Schreiber.
Bonjour Marielle.
Alors Florence, on ne vous présente plus, mais on vous présente quand même, c'est important. Vous êtes diplômée en psychologie transpersonnelle, management du développement durable et psychologie positive d'université américaine. Vous êtes l'autrice de best-sellers dont 3 kiffs par jour, Power Patate et Bloom. Journaliste, vous êtes une pionnière, on peut dire, dans le domaine de la diffusion de la science du bonheur, que vous enseignez aussi à l'ESCP. Aujourd'hui, j'ai voulu vous solliciter plutôt pour votre parcours de conférencière. Vu la thématique de Speech Society, ça se comprend. Et j'avais envie, avec vous, de parler d'audace. Une de vos conférences, d'ailleurs, s'appelle « Audace et désespoir ». Désespoir en deux mots, évidemment. Vous venez d'une famille où les femmes se sont engagées en faveur des droits des femmes. Et j'avais envie de parler en deux mots, vous faire parler en deux mots, du livre de votre mère qui vient de sortir, Claude Servan-Schreiber. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Une femme dans son siècle ». Retour sur une traversée féministe qui est parue au Seuil. Donc, vraisemblablement, le féminisme, c'est de famille chez les Servan-Schreiber.
Alors, en tout cas, c'est vraiment de la lignée maternelle. Je dois cette éducation féministe à ma mère. D'ailleurs, mon père a pris le pli aussi. Ma mère a rencontré le féminisme dans les années 70 en Californie. Elle a rencontré Gloria Steinem, elle était, donc ma mère est journaliste, elle a découvert La Plume des Femmes, Miss Magazine à cette époque, etc. Et en fait, c'est comme si le féminisme l'attendait, c'est-à-dire que l'époque à laquelle elle est devenue adulte est une époque qui n'avait encore pas de contraception, où l'avortement était illégal, où il n'y avait pas de péridurale. Donc, je veux dire, elle a traversé toutes ces années où elle sentait bien que quelque chose était révoltant dans la manière dont le corps des femmes était utilisé ou ne pouvait pas être protégé. Évidemment, quand ces valeurs féministes sont arrivées, ça a été pour elle une évidence. Et à partir de là, toute sa carrière, toute sa vie a été consacrée à militer pour des sujets féministes en France. Et elle a été absolument de tous les combats. Et aujourd'hui, à 88 ans, elle publie son autobiographie qui donc raconte toute cette traversée. Elle est née en Chine dans les années 30. Et les guerres ont obligé sa famille, donc ma famille, à se déplacer. Et au gré de ses déplacements et de ses intérêts et de ses aventures, elle a complètement remodelé sa vie autour de ces questions.
Qu'est-ce que vous diriez qu'elle vous a légué de son combat? Qu'est-ce qui aujourd'hui est encore vivant en vous des questions qui l'ont occupé toute sa vie?
Alors absolument tout. Je n'ai jamais de mon existence toléré des remarques sexistes ou des positions sexistes qui, je crois, me donnent beaucoup de force. Je travaille dans un univers qui est très corporate puisque je travaille avec les entreprises et très tôt, les femmes sont confrontées à des remarques ou des situations. Enfin, peut-être je raconterai des anecdotes, des choses que l'on m'a dites, d'ailleurs, en tant que conférencière. Et pour moi, ça a toujours été intolérable, inacceptable. Donc, je me défends. Et dans votre introduction, vous parlez des femmes qui peuvent empouvoirer les autres. C'est ma mission absolue d'apprendre à mes sœurs, quand je dis mes sœurs, c'est vous toutes, comment réagir ou pourquoi nous avons le droit de réagir. Il est hors de question de s'écraser. Et en fait, très souvent, quand on se défend, quand on regarde les hommes droit dans les yeux et qu'on leur dit ce qu'on a à leur dire, ça s'arrête net. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je dois à ma mère parce que c'est inacceptable. Et je n'ai jamais considéré que les femmes avaient des droits différents des hommes. Donc, ça m'a donné une force de base.
Alors, forcément, je vais revenir avec vous sur votre... sur le début, sur le tout début de votre vie, parce que c'est toujours très, très parlant. Je pense que la personnalité, d'abord, elle émerge très, très tôt chez l'individu. Et j'avais envie que vous me parliez de la petite Florence de 10 ans. Quel enfant étiez-vous? Et est-ce que vous auriez imaginé un jour que vous alliez parler à des publics très larges, de plusieurs centaines de personnes?
Oui. En fait... J'étais complètement transportée par le personnage de Maria dans La Mélodie du Bonheur.
J'adore ce film.
Voilà. Et donc, Julie Andrews était pour moi un modèle total. Enfin, je la trouvais super. Justement, c'était un modèle de femme qui n'était pas une minette. C'était une femme à cheveux courts qui décrochait les rideaux pour fabriquer des vêtements pour les enfants, qui chantait, qui... Bon, alors évidemment, le colonel von Trapp a fini par la galocher. Donc, elle avait absolument tout ce qu'elle voulait. J'ai trouvé que c'était un personnage fort. Et donc, que faisait Julie Andrews? C'est évidemment l'actrice que je voyais derrière. C'était une femme de théâtre. Et donc, c'est vrai qu'assez petite, je me suis dit que j'avais envie de faire du théâtre. Alors, ça n'est pas le chemin que j'ai pris. Mais en tout cas, c'était quand même ça, la vraie envie de départ.
Le théâtre qui est un art de l'expression, qui est un art aussi de l'émotion.
De l'émotion, de la représentation, de la scène. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients semblables au métier que nous faisons, vous et moi. Donc, y avait de ça, mais il y avait une difficulté à laquelle je me suis heurtée assez rapidement. C'est que pour pouvoir faire du théâtre, il faut avoir une bonne mémoire. Et ça n'est pas mon cas. J'ai énormément de difficultés à retenir les choses et notamment les textes qui sont des textes que je n'ai pas écrits. Et donc, en fait, ça s'est avéré difficile et j'ai lâché l'affaire parce que je me souvenais de rien. J'étais dans des cours de théâtre et je me souvenais pas des tirades. Alors, je disais autre chose. On me disait, mais non, mais Florence, tu dois dire ce qui est écrit. J'ai dit, mais non, mais c'est pareil, le sens est le même. C'était pas le même. Donc ça n'a rien donné. Voilà, donc ensuite j'ai rangé ça, parce que ça c'est vraiment à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, j'étais dans les pièces, je jouais dans les pièces de ma classe. Et puis j'ai rangé tout ça, et puis je me suis plutôt envolée vers la psychologie, mais ça fait peut-être... Il y a un moment où a basculé mon désir de devenir conférencière, mais je nous laisse y arriver quand ce sera le moment.
Alors justement... quand est-ce que vous avez eu ce déclic de faire de la conférence? Est-ce que vous avez eu, par exemple, des mentors?
Donc, à 19 ans, je vivais aux États-Unis où je faisais des études et j'ai découvert le développement personnel là-bas. Je vivais à Los Angeles, donc il y a quand même beaucoup d'offres. Et c'était au début des années 80, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'offres. C'était vraiment le paradis des questions sur soi. Je me suis donc inscrite à un certain nombre de séminaires comme ça que je suivais. Et puis, il y avait une femme qui animait ces séminaires. C'était des salles assez grandes, on devait être plus d'une centaine. Et en la regardant comme ça, en la voyant sur scène, c'est la première fois que je me suis dit « Moi, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Je veux être cette femme qui a suffisamment de bagages » d'information, de facilité à s'exprimer et surtout de facilité à nous motiver parce qu'il y avait quelque chose de très engageant dans ce qu'elle nous racontait. Donc c'est devenu un peu, je me souviens encore de sa tête, moi qui ne me souviens de rien, je me souviens encore de sa tête, je me souviens de cette salle, je pourrais presque vous décrire, elle avait un tailleur beige, enfin c'est, et je me suis dit c'est ça que je veux être quand je serai grande.
Ok, donc à 19 ans, ouais. Tout à coup, et puis vous réalisez aussi que c'est aussi une rencontre avec votre ancien désir d'être sur scène.
Alors non, je n'ai pas fait le lien. Ah. C'est marrant, le lien je l'ai fait à 50 ans, bien plus tard, où là je me suis retournée me tourner vers quelque chose de beaucoup plus théâtral. Non, là, puisque en fait cette rencontre-là m'a surtout signalé que je devais également m'engager en psychologie, puisque ce que faisait cette femme, c'est de nous apporter des outils qui nous permettaient de mieux nous comprendre. J'avais 19 ans et je me suis dit, mais ça m'aurait tellement rendu service pendant mon adolescence de savoir tout ça. Sauf qu'évidemment, il faut se tartiner l'adolescence, sinon on ne peut pas grandir. Et donc, le premier réflexe a été de dire, j'étais partie pour faire des études de cinéma, était de dire, j'arrête le cinéma et je vais faire des études de psychologie. Et ça m'a entraînée, non pas vers la conférence, mais vers la formation. C'est-à-dire des groupes beaucoup plus petits, des programmes beaucoup plus longs. Ce n'est pas le même exercice, la formation et la conférence. Et donc, je me suis intéressée de plus près au développement personnel qu'à la conférence, très honnêtement. Mais c'est quand même ce qui m'a amenée extrêmement tôt dans ma vie à animer des groupes et animer des formations, puisque j'ai commencé à l'âge de 21 ans. J'ai animé mes premières formations.
Ah oui, c'est très jeune. C'est très très jeune pour faire de la formation. C'est rare de voir des formatrices ou des formateurs aussi jeunes.
Alors, il fallait voir la tête des gens qui étaient en face de moi, surtout.
Oui, j'imagine qu'ils étaient plus âgés.
Et la tête des mecs en face de moi. Oui. Quand j'arrivais dans un hôtel Mercure pour animer une formation. Oui, alors là pour le coup, j'avais vraiment besoin d'aller chercher juste dans le fond de mes pieds. Ça, on va peut-être en parler, mais je vais souvent chercher dans le fond de mes pieds qui sont posés sur le sol la force nécessaire pour venir dire ce que j'ai à dire. Mais alors, il n'y a pas de secret. La force, dans cette situation-là, quand je suis en position de parler à d'autres gens, vient du travail. Et ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un éclair qui m'éblouit et qui fait que je peux surmonter n'importe quoi. J'ai travaillé mon sujet, je connais mon sujet, je suis à l'aise avec ce que j'ai à dire et ce que je vais dire, et je prends ça très au sérieux, en fait. Et alors, sous des airs de pas sérieuse du tout, puisque c'est ça mon mode d'expression, je me prends au sérieux sans le faire sérieusement. Je ne sais pas comment le raconter, mais j'ai beaucoup travaillé. Et donc, dans ces formations à 21 ans, j'avais beaucoup travaillé avant d'y aller, bien sûr.
Est-ce que, parce que c'est une audace déjà très forte de s'imaginer en formatrice, former des gens plus âgés, etc., aussi jeunes, est-ce que l'audace, ça marche forcément avec la peur ?
Alors, elles sont cousines. Elles ne répondent pas à la même chose. La peur, c'est ce que nous convoquons parce que nous n'avons pas le choix de faire autrement. Quand je dois réagir à quelque chose, quand il m'arrive quelque chose, quand je subis quelque chose, j'éprouve de la peur. Et c'est ça qui va provoquer le courage. Donc, face à la peur, je fais preuve de courage. Je ne fais pas preuve d'audace, puisque c'est le courage qui va me permettre de me sortir des choses obligatoires. Et puis après, il y a la cousine du courage, qui s'appelle l'audace. Et alors elle est totalement auto-infligée. C'est-à-dire, c'est ce que les situations dans lesquelles je décide de me mettre. Donc, ça ne relève plus du courage qui est obligatoire pour survivre, mais c'est quelque chose qui va nous apporter un supplément de vie parce que c'est difficile, parce que ça fait peur. Donc, ça se ressemble, hein, parce que c'est difficile, parce que ça fait peur, mais je ne suis pas obligée. Je pourrais tout à fait en faire l'économie si je préférais rester posée sur mon fauteuil. Je pourrais. Mais si je choisis d'y aller, à ce moment-là, dès lors que c'est choisi, eh bien, c'est de l'audace et ça n'est plus du courage.
Être conférencière, pour moi, ça participe quand même de l'audace parce qu'il y a peu de femmes dans le milieu de la conférence. À peu près, on est à peu près à deux tiers, un tiers. Deux tiers d'hommes conférenciers, un tiers de femmes qui parlent et qui se font payer pour ça, je le précise. Vous, à quel moment vous êtes dit, c'est bon, je suis prête. Je suis prête à parler, à être une conférencière professionnelle qui se fait payer pour parler de ces sujets. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment précis ou est-ce que ça s'est fait de façon très graduelle? Ou alors vous avez été sollicitée et vous vous êtes dit « allez chiche, je le fais ». Parce que passer de la formation à la conférence, vous l'avez précisé, ce n'est pas du tout le même exercice.
Les situations, donc, par exemple, le premier séminaire que j'ai animé de ma vie, mais là, pour le coup, tombé dessus parce que j'étais donc, aujourd'hui, ça s'appelle alternant. Jadis, ça s'appelait esclave. Et d'une femme américaine, Ginny Laborde, qui enseignait la programmation neurolinguistique. Et mon job d'étudiante était à Palo Alto d'accompagner Ginny, d'imprimer les manuels, de trouilloter les manuels, enfin tout ce qu'on fait en formation, que l'on fait toujours, ça existe toujours, et de l'accompagner absolument partout. Et donc évidemment de participer à des séminaires les uns après les autres, jusqu'au matin où à 6h du matin elle m'a appelée en me disant « je me suis cassé le pied cette nuit, c'est toi qui y vas ». Je ne peux pas aller animer le séminaire. Donc là, je n'ai même pas 21 ans à ce moment-là. Je crois que j'ai 20 ans. Enfin, peu importe l'âge, je lui ai dit « Mais Ginny, tu connais forcément quelqu'un d'autre qui peut faire ça à ta place ?» Elle me dit « Non, je ne vois personne qui connaisse le programme mieux que toi. Donc, c'est toi qui y vas. » Alors, elle m'envoie quand même un de ses copains, Jack, qui était un de ses vieux copains avec lesquels ils avaient pris énormément de LSD, parce que tout ça, c'était des gens qui étaient en Californie dans les années 70. Et donc, oui. Alors, elle me dit, non, mais Jack, il est très professionnel. Bon, en effet, Jack a fait... Je ne sais pas, il avait peut-être mon âge aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il était subclaquant. Il s'est assis dans un coin de la pièce, mais ça m'a réconfortée d'avoir Jack, qui ne connaissait rien à rien, mais qui au moins avait un peu de maturité. Et c'est comme ça que j'ai animé mon premier séminaire. Et c'est en sortant de là que je me suis dit waouh, mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, parce que je venais de le faire, c'était même plus théorique, je venais de le faire, les gens écoutaient, les gens participaient, les gens faisaient les exercices, je commentais ce qu'ils faisaient, enfin je m'étais totalement éclatée, j'ai pas respiré de la journée, mais je l'avais fait. Donc ça, c'était le début des formations. La toute première conférence que j'ai animé, il y avait à Paris un salon, donc c'est au moment où je rentre donc de Californie, donc maintenant c'est là où j'ai 21 ans, et il y avait un salon porte-maillot dans l'espèce d'énorme palais des congrès qui s'appelait le salon du marketing direct. Je ne savais pas ce qu'était le marketing direct. Et Aude de Thuin, qui est une femme qui a mis beaucoup de femmes en avant dès qu'elle l'a pu et qui a organisé comme ça beaucoup de salons professionnels, elle a créé le Women's Forum, etc. par la suite. Aude de Thuin, je ne sais par quel vent, sait que je rentre de Californie avec des compétences en PNL, qui était donc la programmation neurolinguistique, qui était vraiment émergente en France, et me dit « Peux-tu venir faire une conférence sur la programmation neurolinguistique ?» Alors, bon, ça c'est peut-être une question de tempérament. Quand on me fait une proposition comme ça, je dis oui. Et si ça me fait peur, c'est bon signe. Si je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, c'est extrêmement bon signe aussi. Mais j'étais tentée quand même parce que, de nouveau, le travail avait été fait. Je connaissais le sujet. Le tout était maintenant d'en faire une conférence et puis de sortir sur cette scène du Palais des Congrès et de faire cette conférence que j'ai faite. Donc, c'est ce jour-là où c'était mon dépucelage, en fait. J'ai fait cette première conférence et elle était faite. Voilà, c'est comme ça que je n'ai pas eu à me demander si j'étais prête, je l'ai faite. Et par la suite, donc, nous avions un système de formation mis au point qui consistait à s'adresser à de très grandes salles, donc j'avais quand même un peu cette expérience-là. Et puis, il faut savoir que tout ça a duré jusqu'à l'âge de 30 ans, donc une dizaine d'années. Et à 30 ans, j'ai complètement quitté cet univers. Complètement. Je suis devenue ridologue. Donc, je fabriquais des rideaux et j'apprenais aux gens à confectionner des rideaux. C'est-à-dire que j'ai complètement changé d'univers parce que j'avais besoin de faire quelque chose de plus créatif, de plus frivole, de plus, dans mes valeurs, de plus féminin. J'avais vraiment jusqu'à là l'impression de vivre une vie professionnelle de mec, en fait. Donc, j'avais envie d'autre chose. Et je me suis donc éloignée complètement, mais complètement de cet univers jusqu'à ce que j'écrive 3 kiffs par jour. Et 3 kiffs par jour, je l'ai écrit à 45 ans. Et alors là, le naturel est revenu, c'est même pas au galop, c'était au turbo. C'est-à-dire que comme j'avais maintenant cette matière qui vraiment m'a totalement envoûtée, la psychologie positive, c'est comme si ma mère attendait le féminisme, moi j'attendais la psychologie positive. Enfin, il a fallu qu'elle se crée, qu'elle se théorise pour que je puisse la rencontrer. Et lorsque je l'ai rencontrée, alors... Le premier réflexe a été de dire, mais qu'est-ce que je sais faire? Je sais parler. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'en parler. C'est-à-dire qu'un livre, c'est super, ça touche une partie de la population qui va lire, mais il y a tellement d'autres façons de raconter ça. Et immédiatement, donc ça s'est passé comme ça, à la sortie du livre, je passe au grand journal de Canal+, et le lendemain, me trouve via je ne sais quel réseau, les gens d'une grande banque française qui me disent « Est-ce que vous pourriez venir faire une conférence sur le sujet ?» Je ne me suis même pas posé la question. J'ai dit « Absolument, oui, bien sûr !» Et hop, je suis allée rechercher ma power robe. J'en ai choisi une nouvelle, parce qu'il y a quelques trucs de base. Hein. Il y a des chaussures, il y a la tenue, etc. Donc, on s'équipe, on met l'armure. Et je me suis retrouvée au Palais Brongniart devant 600 personnes à faire la première conférence sur la psychologie positive et c'était reparti.
Alors, je ne vais pas vous laisser continuer à parler de la conférence sans revenir sur cette histoire de créatrice de rideaux. Comment est-ce qu'on passe de créatrice de rideaux à tout à coup... Enfin, comment s'est fait le lien? Parce qu'en fait, on a la sensation que c'est comme si c'était overnight, quoi. Genre, vous vous réveillez un matin, oh ben non, finalement, les rideaux, c'est bien, je l'ai fait, ça devait être fait. Ça faisait partie de mon parcours. Et hop, maintenant. Donc, alors, c'est quoi le trait d'union entre les deux choses? Parce que c'est quand même assez surprenant.
Ça commence... par un burn-out. C'est-à-dire que, à force de dire à toutes ces grandes personnes ce qu'ils devaient faire, ce que je faisais depuis l'âge de 20 ans, tout à coup, à 30 ans, je me dis, mais qui suis-je pour dire à ces gens ce qu'ils doivent faire? Parce qu'en formation, c'est ce que j'apportais. J'apportais des conseils. Enfin bon. Et j'ai eu... je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre, hein, le fameux. Je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, qui était une fille. Arthur, mon fils aîné, était né 2 ans avant. Pénélope arrive et c'est là où j'ai eu tout ce questionnement en me disant « Mes valeurs professionnelles sont des valeurs masculines. Je ne sais pas ce que je vais dire à cette petite fille. Je ne sais pas comment on va lui dire. Je vais lui expliquer ce que c'est de devenir une femme, etc. » Donc, je me questionne là-dessus. Je ne peux plus animer un seul séminaire, c'est-à-dire que l'idée d'aller en animer un de plus, j'allais probablement poignarder les participants, donc il fallait plus que j'y aille. J'avais trop répété mon sujet, le sujet à l'époque était la qualité de service. C'était trop, je suis arrivée au bout de ce truc-là, et même si ça a l'air sympa sur le papier, c'est un investissement énorme, la formation, et on donne beaucoup de soi, je ne récupérais plus grand-chose des gens en face de moi, j'en avais marre, ils me disaient « oui, mais chez nous, c'est pas pareil ». Enfin bon, je ne pouvais plus les supporter, donc je me suis dit « je vais arrêter d'y aller, ce sera mieux pour tout le monde ». Donc, je ne pouvais plus y aller, en fait. Ce n'est pas que je vais arrêter, c'est que je ne pouvais plus y aller. Donc, j'ai quitté cet univers-là. J'étais totalement paumée. J'étais totalement déprimée. Parce que burn-out, ça s'appelle une dépression quand même aussi. Donc, j'étais totalement déprimée. Puis, il se trouve que nous avons déménagé. J'ai eu besoin de bureaux. Et j'ai rencontré quelqu'un qui fabriquait des rideaux qui étaient vraiment extrêmement poétiques. Je me suis dit, tiens, mais je vais apprendre ça. Et j'avais besoin... dans ce remaniement très profond, d'arrêter de dire aux gens ce qu'ils devaient faire et de moi fabriquer quelque chose de façon artisanale, d'avoir les mains vraiment dans le cambouis. Ça n'était plus conceptuel, c'était physique. J'avais besoin de faire quelque chose de physique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les gens avec lesquels je travaillais sur ces formations à la qualité de service, nous étions tous extrêmement jeunes en commençant. Et on a tous eu une rupture à ce moment-là où deux des autres garçons sont partis ouvrir des cafés. C'est-à-dire que vraiment, hein, on faisait du conseil auprès des plus grandes boîtes, et c'est Citroën, Hewlett-Packard, etc. Donc, il y en a deux qui sont allés ouvrir un café. Moi, je suis... Enfin, des cafés Columbus. Moi, je suis allée faire mes rideaux. Et le troisième est allé créer un catalogue de jouets pour enfants, enfin, quelque chose de très concret. Donc, on avait besoin... Et en particulier, je ne peux parler que de moi, j'avais besoin de quelque chose d'extrêmement concret. Donc, au moment où j'ai eu besoin de faire ces rideaux, j'apprends et je découvre que j'ai énormément d'idées. Et que donc, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un environnement dans lequel je me sens extrêmement bien. Et donc, j'ai passé 7 ans... entourée de rouleaux de tissu, alors je faisais que des rideaux blancs, de rouleaux de tissu blanc, du lin, du coton, avec ma machine à coudre, et j'étais reine du pétrole dans un espèce d'artisanat absolument microscopique dans une chambre de bonne dans l'immeuble où nous habitions, au dernier étage sous les toits. J'avais besoin de ça, c'était mon retour à la... à la terre, en fait. C'est le retour à la terre d'une urbaine invétérée.
C'est ce que je trouve particulièrement touchant là, dans cette aventure que vous nous racontez, le retour à l'artisanat, c'est aussi cette absence, en tout cas, c'est ce que j'entends, cette absence de... mais qu'est-ce que les autres vont penser ? Enfin, j'étais successful dans la formation, j'anime des séminaires, etc. Puis là, maintenant, je couds des rideaux. Enfin, on ne sent pas que vous vous êtes dit, mais est-ce que ça ne va pas être vu comme si je me déclasse toute seule, etc. Mais pas du tout. Vous avez suivi votre ressenti.
Mais Marielle, quand on est si mal, on est déjà tellement contente de trouver quelque chose qui nous fait du bien, de trouver quelque chose qu'on a envie de faire, de retrouver l'envie de se lever, c'était même pas la question. Alors, ensuite, je l'ai fait à ma manière. C'est-à-dire que j'ai commencé par apprendre tout ça, et puis, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai en fait ouvert très rapidement une école de couture. C'est-à-dire que l'atelier en question consistait, on venait pour passer le week-end chez moi. Et pendant ce week-end, j'étais allée voir Singer en leur disant « ce serait bien que vous me donniez des machines à coudre ». Ils m'ont donné 6 machines à coudre et j'avais 6 machines à coudre. Et les gens venaient apprendre et en un week-end, ils repartaient avec ça. Donc, j'ai retrouvé mon environnement de formation. En fait, ça, c'est ce dont je ne peux pas m'empêcher. Si je sais quelque chose, mon élan, c'est d'aller l'apprendre aux autres, de dire « vous aussi, vous pouvez le faire ». Donc, il n'y avait vraiment pas de notion de déclassement. Et franchement, vraiment, j'étais... Ouais, enfin voilà, quand on est si mal, on est déjà très, très content de trouver quelque chose qui nous fait un peu du bien.
Vous avez commencé, j'ai envie de dire, par la grande porte. Tout de suite, première conférence, Palais des Congrès. On ne se mouche pas du coude. Quand vous avez commencé à faire des conférences, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus challengeant ?
Ce qu'il est toujours, hein, le trac, l'écoute de la salle... C'est-à-dire que ce qui, pour moi, le critère de réussite d'une conférence, ça n'est pas de me dire que j'ai déroulé ce que j'avais à dire et que j'ai tout dit et que j'ai rien oublié. Parce qu'il y a énormément de facteurs hein, quand on fait une conférence. Est-ce que j'ai tout dit ? Est-ce que j'ai rien oublié ? Est-ce que je ne me balance pas en tous les sens ? Est-ce que je parle sans des et tout un tas de bruit ? Mais il y a aussi... Quel est l'état de la salle et quel est l'état d'engagement de la salle? Et c'est tellement instantané et c'est tellement fort. C'est-à-dire que la place qu'occupent les gens dans notre périmètre quand on est en train de parler est tellement conséquent. En fait, ce sont eux le gros morceau. Et donc ça, c'est évidemment toujours mon appréhension quand je vais rentrer sur scène ou quand on me tend un micro. C'est est-ce que je vais savoir, cette fois-ci encore, les attraper. Il n'y a pas, aucune salle ne se ressemble. Et aucune conférence précédente ne me donne la garantie que je vais pouvoir réussir celle-là. Et je crois que c'est pour ça que j'aime ce métier, que je l'aime encore. C'est que j'ai toujours peur en y allant. Donc, j'ai toujours le trac. J'ai tout un tas de petits gestes comme ça et de mantras que je me répète. Mais alors là, ça vraiment depuis la première, hein, depuis le Palais des Congrès, en effet, des décennies de mantras.
À quand un livre sur les mantras de Florence Avant Schreiber?
C'est toujours la même chose. C'est quelque chose que j'ai appris à faire avant de marcher sur le feu. C'est vraiment un mantra mnémotechnique. Enfin, c'est un ancrage, ça s'appelle un ancrage. Hein, c'est quelque chose qui vient de la programmation neurolinguistique, justement. Alors, on se touche comme ça. Je ferme les doigts les uns après les autres en me disant que je suis confortable, compétente, créative, centrée et claire. Ça, ce sont les cinq choses que je me dis. Et vraiment, je le fais à chaque fois et je rentre sur scène avec le poing serré, pleine de ces compétences-là, parce que ce sont celles-là dont je vais me servir pour aller, je ne sais pas, c'est vraiment conquérir la salle qui est devant moi.
Est-ce que c'est arrivé que cette rencontre, ça ne se passe pas comme voulu? Parce que c'est vraiment une rencontre avec le public à chaque fois. Effectivement, il n'y a que le public qui est au courant ou qui n'est pas au courant. Il n'y a que le public qui n'est pas au courant, qu'il n'est pas passif. Quand on est sur scène, on sent qu'ils sont très actifs. Hein. Ils sont soit dispersés, soit très attentifs, soit ils sont dans une écoute religieuse. Ou alors, il y a des publics aussi qui ont envie de se marrer. Donc, tout ce qui peut prêter à rire, voilà. Donc, ils ont vraiment une personnalité. Chaque public a vraiment sa couleur. Parfois, malgré toute la bonne volonté du conférencier ou de la conférencière, la connexion ne se fait pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et comment vous avez réagi dans ces cas-là?
Alors, la première fois que ça m'est arrivé, c'est quelque chose que... C'était de la formation, mais c'était presque encore plus pénible. C'était chez un grand constructeur informatique, dont on ne citera pas le nom. Et j'avais vraiment insisté pour que la population soit métissée, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs métiers dans la même salle, parce que je savais pertinemment que sur ce sujet-là, si tout le monde faisait le même métier, il y avait des objections. On me met une salle entière de commerciaux, donc c'est à peu près ce qu'on peut faire de pire en termes d'objections, parce qu'ils savent toujours mieux tout que, en tout cas, que moi. Et donc, au lieu de me laisser parler, ils m'interrompaient, ils me disaient « Mais vous savez que vous ressemblez à Muriel Robin ?» Donc, il fallait que j'atterrisse de ça, il fallait que j'en fasse quelque chose, il fallait que je trouve que je fasse une vanne moi-même. Enfin, c'était le truc absolument... J'ai passé la journée la pire de mon existence. Évidemment, tout leur glissait dessus, ils voulaient strictement rien faire, ils se levaient, ils partaient, ils sortaient de la pièce. Enfin, j'avais absolument aucun contrôle du groupe. Oui, je vois la grimace que vous faites, Marielle, que vous savez de quoi je parle. C'est absolument atroce quand il y a comme ça aucune connexion. Et je sors de là, c'est à Villepinte, on est en hiver, je vais à ma voiture, il y a un pneu crevé. Donc, j'ai, en plus de ça, j'ai dû attendre qu'ils sortent et leur demander de me donner un coup de main parce que je n'avais pas le matériel qu'il fallait. Pire journée de ma life. Donc, ça, je l'ai toujours gardé en souvenir. Alors après, j'ai aussi appris, pour éviter ce que je décris là, à ne pas tout accepter. C'est-à-dire que quand on fait ce métier, c'est une telle chance de le faire qu'on est tenté. Il y a des gens parfois comme ça qui nous donnent un brief parce qu'ils ont envie d'une conférence sur quelque chose, etc. Et on ne le sent pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On ne le sent pas, il y a quelque chose. Mais évidemment, on est toujours tiraillé entre d'abord, j'ai besoin de travailler, puis il faut travailler, puis je serais peut-être quand même capable de le faire. Et puis enfin, il y a tout un débat intérieur. Alors ça, j'ai complètement appris à maîtriser le débat intérieur. Eh bien, c'est non. Voilà, je sais maintenant, et j'ai appris, parce que ça m'est arrivé en conférence aussi, de me retrouver avec des publics qui n'arrêtaient pas de parler. Enfin, souvenir cauchemardesque, ça c'était pour un transporteur routier dans un stade. Oh, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, d'ailleurs, parce que j'ai beau maintenant être extrêmement expérimentée, ça me pend toujours au nez, cette affaire. C'est-à-dire que je peux toujours tomber sur une salle où la mayonnaise ne prendra pas, parce que... Est-ce que ça vient de l'introduction que l'on a faite, de ce que les gens attendent par rapport à ce que je viens apporter? Parce qu'il y a aussi un danger là, c'est que j'arrive dans des... Il y a deux situations dans lesquelles je donne des conférences. Il y a des conférences publiques. Là, chacun a pris sa place. Donc ça, pour moi, c'est un bonheur absolu à animer parce que je sais que les gens qui sont là sont exigeants, mais ils ont envie d'être là. Et puis... Dans ma vie professionnelle, donc dans ce que je fais pendant la journée, ce sont des conférences dans des entreprises. Donc, tout le monde n'a pas nécessairement demandé à être là. Donc, on envoie les gens, on leur demande, on les oblige. Donc, ils le vivent plus ou moins bien. Donc, en fonction de la façon dont ça a été présenté, je ne sais jamais dans quel terrain miné j'arrive. Donc, il peut se produire toujours des catastrophes de cette nature. C'est l'enfer.
C'est un métier qui demande vraiment à la fois de la résilience, de l'esprit d'à propos, du courage encore, beaucoup de courage, et développer aussi cette intuition de comment aborder les choses avec ce public dans l'état émotionnel dans lequel il est là.
Dans ces situations-là, je me dis, ma vieille, il faut tenir jusqu'au bout. Parce qu'on aurait aussi la possibilité, hein, on peut tout à fait dire, attendez les gars, vous êtes insupportables, si ça ne vous intéresse pas, on arrête là. Mais il y a 300 personnes, il y a un commanditaire, c'est pas confortable. Donc, c'est vrai qu'après, ça demande un espèce d'effort énorme. Mais bon, c'est intéressant aussi à faire. Hein. On met un petit moment à s'en remettre, mais comment est-ce que je tiens jusqu'au bout? Comment est-ce que je finis cette heure-là, sachant qu'ils ne m'écoutent pas, sachant que ça ne les intéresse pas, sachant que... Mais je vais aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est ma technique. Je me dis, je vais quand même aller jusqu'au bout. Je n'ai jamais jeté l'éponge au milieu en disant, ils n'en veulent pas, laissez-moi rentrer chez moi. Donc oui, il y a des moments. Mais justement, la conférence relève pour moi de l'audace parce qu'elle est auto-infligée, justement. Quand je dis auto-infligée, c'est vraiment dans le bon sens du terme. Hein. C'est que je décide de me faire ça à moi-même, non pas comme une douleur, mais comme une difficulté que je choisis d'honorer. Mais quand tout à coup, ça bascule comme ça, là, ça devient vraiment une histoire de courage brut et méchant où il faut tenir. Et la petite fille est en miettes à l'intérieur, mais il faut quand même y aller. Et ce sont des lions et il faut se défendre, quoi. Donc, c'est un métier aussi où il faut savoir que quand on va sortir sur une scène comme ça, ma devise, c'est que si on me tend un micro, c'est à moi d'honorer cette confiance et de faire absolument le mieux possible pour ces gens. Je trouve que c'est un privilège qu'on nous tende un micro. C'est justement, vous en parliez, les femmes s'expriment moins que les hommes. Et c'est un privilège totalement dû, hein, mais il n'empêche, quand il y a 300 personnes qui vous confient une heure de leur temps, il y a quelque chose, il y a une obligation de donner absolument le meilleur. Et puis il y a des jours où ça ne marche pas. Voilà.
Fait mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des remarques sexistes dans ce milieu de la conférence?
Ah ben oui. Alors, j'ai un souvenir édifiant. Je suis invitée à donner une conférence auprès d'un très grand groupe de distribution français du nord de la France. Et le fondateur de cette entreprise, m'invite à déjeuner. Et nous déjeunons tous les deux, on mangeait des endives braisées, le plat était totalement local. Et puis arrive quelqu'un de son staff qui me dit « Ah, Madame Servan-Schreiber, je ne vous ai pas dit, mais en fait, vous allez être filmée. » Et alors ça aussi, c'est un sujet quand même qu'il faut aborder avec les conférencières, et les futures, les actuelles, etc. C'est que je lui dis « Eh bien non !» je suis venue pour faire une conférence, je ne suis pas venue pour être filmée. Il y a toute une histoire de droit et tout ça, c'était bien, bien avant le Covid. Donc, on était. Toujours, hein, d'ailleurs, j'ai une très grande séparation entre ce que je fais vraiment dans la salle physiquement et ce qui est filmé. C'est pas parce que je suis venue une fois qu'on peut m'avoir sur une bande ad vitam aeternam. Bon, toujours est-il que cette femme dit « Oh, ben, je ne vous ai pas dit que vous seriez filmée ». Je lui dis « Non, alors pas du tout, ça ne fait pas du tout partie de notre accord ». Donc, le grand patron est à côté de moi. Et il dit « Bah si, on filme les gens qui sont là ». Je dis « Non, non, vraiment, ça ne fait pas partie de nos accords, donc je préfère ne pas être filmée ». Et là, il me dit « Mais de toute façon, on ne sait même pas si vous êtes bonne ». La phrase. Et là, je me suis dit Alors, toi, mon coco, en gros, c'est devenu mon défi, a été à partir de ce moment-là, donc j'ai refusé qu'on me filme, j'ai tenu bon en disant, je dis, bah, écoutez ça, vous serez seul juge à la fin de la journée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute la conférence? Je n'ai pas cessé de faire référence à ce qu'il m'avait dit au cours de notre déjeuner, des choses sur son parcours, des choses sur lui. Enfin, je suis complètement allée le chercher, il était assis au fond de la pièce, il boudait, etc. Ce qui fait qu'à la fin, il n'en pouvait plus. Il s'est levé, il est venu m'embrasser. C'est-à-dire que, évidemment, mon pouvoir à moi était dans ce cas précis de pouvoir aller le chercher, le flatter, de lui servir, en fait, quelque chose qui allait complètement le fragiliser, son espèce de sexisme. Parce que ça n'était que ça. Hein. Il n'aurait jamais dit ça à un mec. Hein. Jamais. Et donc, à la fin, il m'a dit, mais je peux vous faire un cadeau? Est-ce que je peux faire une photo? Est-ce que... Et ça a été ma grande victoire parce que, évidemment, c'est le genre de phrase, de... Enfin bon, il ne se méfie pas. Hein. Il pense qu'ils peuvent juste nous insulter et puis on ne va pas réagir. Mais il ferait mieux de se méfier parce qu'on réagit. Bien sûr, j'ai plein de remarques comme ça, même en amont de préparation des conférences ou... Des doutes sur mes compétences, des doutes sur mes qualifications, des doutes sur... Mais qui viennent toujours de mecs, hein, jamais de femmes. Bien sûr, il y en a.
C'est déplaisant. C'est toujours extrêmement déplaisant et c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser faire. Je pense que c'est important.
Non, pas
important.
Du tout. Pas du tout.
C'est important parce que...
Ouais. Et là, merci maman pour ça.
Ah oui, ouais. Évidemment, évidemment. J'imagine que ça a dû beaucoup, beaucoup vous aider d'avoir une maman comme ça. Alors, on a parlé des difficultés, des affres que peuvent subir les conférencières. Quel est votre plus beau souvenir de prise de parole en public?
Il est extrêmement vivant. Donc, pour revenir à Julie Andrews, à l'âge de 50 ans, je me suis dit, OK, tu fais presque le métier de Julie Andrews, parce que tu es sur scène, il y a des gens en face, etc. Mais c'est pas ça, parce que tu chantes pas, tu danses pas, t'as pas de costume, et c'est pas toujours le même texte qu'il faut répéter. Et donc, je me suis lancée dans un projet absolument faramineux, qui a été de créer le premier spectacle de psychologie positive. Alors, j'ai vérifié dans le monde, hein, puisque personne ne l'avait fait dans le monde, et avec deux autres femmes, nous avons créé quelque chose qui s'est appelé la Fabrique à Kiff. Et nous avons tourné, donc nous avons joué tous les lundis dans des théâtres à Paris et en France pendant 3 ans, en faisant vraiment une tournée. Et puis, pour la dernière représentation, nous sommes allés jouer la Fabrique à Kiff au Grand Rex, devant 3000 personnes, dans des robes à paillettes, avec une école de comédie musicale dans le dos, donc qui chantait, qui dansait avec nous, avec des chorés géantes. On a fait chanter, on a fait danser absolument toute la salle, avec un karaoké géant, on a fait chanter toute la salle. Enfin, un souvenir, c'était exactement ça qu'à 8 ans, j'avais envie de vivre. Et donc, je l'ai vécu à 55 ans. J'étais sur scène dans ma robe à paillettes avec des chanteurs, des danseurs. Ça reste. C'est comme si ce n'était jamais passé. Il y a des traumatismes positifs. Les traumatismes, on dit toujours que voilà, les traumatismes, quand ils sont négatifs, ils traînent très longtemps. Celui-là, Dieu merci, il tient très longtemps chez moi. Il traîne encore dans mes cellules. Il suffit que je le dise pour que je sois en train de le revivre. C'était absolument fantastique. Et je n'ai, avant d'entrer en scène, je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Jamais. Mon corps était absolument pétrifié. Vraiment, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu autant de trac. Mais je sais maintenant, et ça peut-être c'est un, comment dire, un conseil de Mamie Flo, hein, qui fait ce métier depuis longtemps, que chez moi, le plaisir est toujours équivalent au trac. Et que le jour où je n'aurai plus le trac, je n'irai plus faire de conférences.
Waouh, c'est un superbe mot de la fin, hein, Florence. Merci. Ce que ça m'évoque, ce que vous venez de partager là comme souvenir, c'est que peut-être que l'audace, c'est être fidèle à la petite fille qu'on a été, qui n'avait aucun frein, qui ne voyait que les possibilités et absolument pas les obstacles. Et pouvoir se reconnecter à elle, finalement, ça donne vraiment des ailes.
Et j'ajouterais que tout ce qui n'est pas mort est encore vivant. C'est-à-dire qu'il y a des branches qu'on a coupées comme ça au nom de bah non, je vais quand même pas faire du théâtre et puis je n'ai pas de mémoire et puis plein de gnagnagna. Néanmoins, quand c'est encore vivant, le truc va ressortir. Donc autant le laisser sortir, c'est-à-dire que ce désir de scène et de danse et de paillettes, il était encore là et ben il était encore vivant. Donc il faut aller chercher ce qui est encore vivant.
Superbe. Merci, merci, merci beaucoup Florence Avant-Schreiber. On peut vous retrouver côté réseaux sociaux sur LinkedIn et sur Instagram. Et pour être tenu informé de votre actu, c'est tout simple. votre site florenceservanschreiber.com. Vous m'avez confié hors micro que vous étiez en pleine écriture d'un livre sur l'audace qui sortira, si je ne me trompe pas, en septembre 2025 aux éditions Le Duc. Je serai dans les premières à l'acheter. On rappelle que Claude Servan-Schreiber, votre maman, vient de sortir « Une femme dans son siècle, retour sur une traversée féministe » aux éditions Le Seuil. Encore une belle figure d'audace. Vous pouvez retrouver toutes ces infos en description de l'épisode.
À très bientôt.
Speech Society.
Vous voulez des conseils bonus sur l'art oratoire et être informé des actus de Speech Society ? Abonnez-vous à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Un cadeau vous attend, la checklist des 10 incontournables de la prise de parole à enjeu, à télécharger dans la première newsletter. Et si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, pensez à lui mettre des étoiles. Ça aidera d'autres femmes à le découvrir. C'est aussi ça, la sororité. Rendez-vous dès lundi prochain pour notre épisode flash sur les tips de la prise de parole en public. À très bientôt. Et d'ici là, mesdames, n'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la. Ce podcast est enregistré dans le studio du Remix Coworking à Paris, à la prise de son Marion Armango de Make Some Noise, montage et habillage Bruno Chantepie, musique artlist.io.